السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir pour célébrer, pour mettre en pratique une action qui a une grande importance, une action qui a une relation directe avec la foi par rapport à la perfection de la foi, une action qui a une relation directe avec les sentiments humains, et une action qui est en rapport direct également avec la fitra, avec l'innéité, une action qui suit, une action qui répond à la volonté d'Allah Azza wa Jal, à l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de l'être humain, ce qu'on appelle al-fitra. Mes chers frères et sœurs en islam, le nikah, comme on l'a dit, fait partie de l'innéité, des choses qui sont innées, qui sont instinctives, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Et Allah azza wa jal sait ce qu'il faut pour l'être humain, pour sa stabilité physique. Allah azza wa jal également sait ce qui est nécessaire à l'être humain pour son équilibre psychologique, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement ce qu'il faut à l'être humain pour son équilibre spirituel et sa foi. Et lorsqu'Allah azza wa jal a créé Adam alayhi salam dans le paradis, malgré le fait qu'il était entouré de tous les bienfaits, de tous les ni'mas qu'il y avait dans le paradis, Allah azza wa jal savait qu'il était nécessaire de créer pour Adam alayhi salam une épouse, de créer pour Adam alayhi salam une femme, malgré que dans le paradis, Adam alayhi salam pouvait jouir de tous les bienfaits imaginables, de tous les bienfaits qu'un être humain souhaite. Mais Allah azza wa jal, malgré ça, a su que pour que cet homme, pour que Adam alayhi salam, et par la suite n'importe quel insan, n'importe quel être humain, trouve la quiétude, la tranquillité, l'apaisement, la stabilité psychologique, cet être humain a besoin d'une épouse, et Allah azza wa jal a créé Hawa alayha salam. Et dans le Coran, Allah azza wa jal nous explique que par la création de la femme et par l'union, le mariage entre l'homme et la femme, Allah azza wa jal fait en sorte que le mari, l'homme, va trouver la quiétude, ce qu'on appelle la sakina, auprès de son épouse. Et vice versa, lorsqu'une femme se marie, elle aura auprès d'elle un homme, elle trouvera également l'apaisement, la tranquillité du cœur. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est lui, c'est-à-dire c'est Allah, qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Comprenons, mes chers frères et sœurs, à travers ce verset, qu'un homme ou une femme, même si cette personne a réussi, cette personne a pu réunir toutes les conditions du bonheur, que ce soit réussite professionnelle, financière, n'importe quel type d'émancipation, cette personne ne trouvera jamais la tranquillité, la quiétude sans le nikah. Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme de la sorte, c'est ce qu'on appelle la fitra. Et on insiste là-dessus pour qu'on comprenne l'importance de ce qu'on est en train de célébrer, ce qu'on est en train de concrétiser ce soir. La nikah, le mariage, est une sunna de notre prophète alayhi salatu wa salam. Le hadith de notre prophète alayhi salam dit « Amma ana fa asum wa uftir wa aqum wa anam wa atazawwaju an-nisa fa man raghiba an sunnati falaysa minni » rawah al-Bukhari wa Muslim. De ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous explique que comme Allah a créé l'homme de la sorte, ben lui, prophète d'Allah, il met en pratique cette fitra, cette sunna d'Allah. Et le prophète dit, il y a des fois où je jeûne, mais il y a des fois où je ne jeûne pas également, pour pouvoir donner le droit à ma famille. Et moi, prophète d'Allah, sais que j'épouse, je marie, je ne reste pas célibataire. Et celui donc qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc sunna de notre prophète alayhi salatu wa salam, mais sunna de tous les anbiya, sunna de tous les prophètes alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, arba'un min sunna il y a quatre choses qui font partie des habitudes de tous les prophètes. Et parmi ces quatre choses, hein, le fait de se parfumer, le fait d'utiliser le miswak, ou un nikah, le mariage. Et comprenons que nous ne célébrons pas que une sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est avant tout une sunna universelle, et c'est là la volonté d'Allah dans la création. Et pourquoi on insiste souvent dans les programmes du nikah sur le fait que ça c'est une sunna d'Allah et la sunna des anbiya alayhi salatu wa salam, c'est pour qu'on comprenne que lorsqu'une personne a fait le vœu, l'intention, le niyat de se marier habillé, il suit l'ordre d'Allah, et il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et il suit une sunna qui est historique, qui est universelle. Tandis que la personne qui décide de rester célibataire, cette personne va à l'encontre de l'ordre d'Allah, et à l'encontre de tous les sunan. Et pire encore, quelqu'un qui décide de vivre avec une femme, dans le concubinage, sans les liens du mariage, c'est quelqu'un qui va à l'encontre des ordres d'Allah, à l'encontre de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et à l'encontre du mode de vie de tous les anbiya alayhi salatu wassalam, du premier jusqu'au dernier. Parce que la fitra, l'inéité, ce n'est pas de vivre avec une femme, non. La sunna, c'est de vivre avec une femme à travers les liens sacrés du nikah, à travers les liens sacrés du mariage. Et mes chers frères et sœurs, un des objectifs du mariage, certainement, c'est de concrétiser les sentiments. On ne va pas dire que quand on se marie, c'est juste pour faire l'ibadat. Non, ça n'a pas été dit. Hein, il y a un temps pour l'ibadat et il y a un temps pour l'amour, pour le côté humain. C'est ce qui fait le wasatiyya, le juste milieu dans notre religion. Et même dans cette expression d'amour, lorsqu'il y a l'union entre un homme et une femme, il y a les ordres d'Allah respectés et il y a la sunna, le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit le Coran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah ta'ala ordonne à chaque mari, à chaque homme qui va épouser une femme, d'agir correctement envers son épouse. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, notre prophète alayhi salatu wassalam, rappelez, ittaqullaha fi nisa, craignez Allah dans vos épouses. Et donc, quand on parle d'amour, de muhabba dans l'islam, c'est basé tout d'abord sur un respect mutuel. C'est basé sur la considération entre l'homme et sa femme, sur le respect de l'autre, le respect de la personne, de son intégrité physiquement, mais le respect également des opinions, le respect des traditions, le respect de la culture de son prochain, la compassion, la patience, à ce qu'on appelle ar-rahma dans le mariage, l'acceptation de l'autre avec ses différences, l'acceptation de l'autre avec ses qualités et ses défauts également, et surtout l'effort que l'homme va faire et l'effort que la femme va faire de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, pour que ces deux cœurs-là soient unis pour traverser ce grand océan qui est le dunya, qui est la vie dans ce monde. Et un des exemples, une des anecdotes les plus exceptionnelles, les plus magnifiques, les plus symboliques de cette expression d'amour entre le prophète alayhi salatu wassalam et sa femme, c'est cette histoire du récipient cassé, l'histoire qu'on a peut-être déjà rappelée plusieurs fois, mais c'est tellement, subhanallah, c'est symbolique. Le prophète alayhi salatu wassalam reçoit un récipient de nourriture de la part d'une autre épouse, et le prophète alayhi salatu wassalam ce soir-là était accueilli dans la maison d'une autre épouse, si je ne me trompe pas, c'était Aisha radiallahu anha, et l'autre épouse qui avait envoyé la nourriture était bien meilleure cuisinière, et donc Aisha, elle était un petit peu jalouse, et elle a pris le récipient, elle l'a jeté. Cassé le récipient, la nourriture est perdue également. Imaginez cette réaction qui est de jalousie mais qui est un peu violente devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et regardez le comportement exemplaire, exceptionnel du prophète alayhi salatu wa sallam. Deux choses, la patience, le sabr. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas dit un mot. C'est pas se défiler, ça. C'est pas que le prophète A'oud Billah a peur de la réaction. Non, le prophète sallam fait preuve de patience. Parce qu'Allah a dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, et que personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts, des qualités, mais surtout des défauts, très souvent. Et dans les premières années du mariage, on voit les choses qui souvent ne coïncident pas, surtout quand on est de famille, de culture différente, d'éducation différente. Donc, on revient, le sabre, la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit un mot. Il n'a pas insulté, il n'a pas encore moins frappé son épouse. Alors qu'une scène de ménage comme ça, dans notre foyer, il est difficile. Il est difficile de résister, il est difficile ne serait-ce de ne pas froncer les sourcils, ou alors de tourner le dos et de partir et de revenir plus tard. La première qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cette petite anecdote, c'est la patience. La deuxième réaction qui est symbolique et exceptionnelle, c'est la compréhension. Notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait compris qu'est-ce qui se passait dans la tête de son épouse. Et il a dit que rarat ummukum, votre mère, c'est-à-dire la mère des croyantes, elle a fait preuve de jalousie. Elle était un peu possessive ce soir. Elle s'est mise un peu en colère, sur un ton, en plaisantant. Notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette anecdote, nous fait comprendre comment Marie réagit. Je ne dis pas quand tout va bien, parce que quand tout va bien, il y a échange de roses et de bisous, on est tout content. Mais dans des situations de crise, Nabi Karim alayhi salatu wa salam nous montre l'exemple à suivre. Et ça, c'est dur. J'aime mettre un joli kafni, mettre un bon turban, mal pas pour Bilal, un joli bain, un bon parfum, mettre du roud, viens premier soir, nous on est d'accord. Mais quand madame, le volcan il pète, you know, in Réunion, there is a volcano, you know, and sometimes woman in Réunion is like volcano. Donc, quand il y a des tempéraments volcaniques, notre prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné également comment réagir avec sagesse. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, quand on analyse un peu les faits d'actualité, hein, le nombre de cas de violence qu'il y a sur les femmes, le nombre de cas de femmes battues, parfois des femmes qui sont tuées, assassinées, violentées par des maris violents. Regardez, ce sont des faits de société. À La Réunion, en France, en Amérique, partout, hein, dans le monde en général. Et que on analyse cet exemple, cette anecdote qui fait partie de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et que, en conclusion, en synthèse, nous continuons à lire à travers les médias des propos incohérents, contradictoires sur la place de la femme dans la société comme étant un être soumise et opprimé, et l'homme, le mari, hein, dans l'islam, qui est un barbare avec des valeurs archaïques. Nous disons qu'il y a une incohérence. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous montre un mode de vie, une manière de réagir, c'est ça le dîn. Le dîn, ce n'est pas des discours, le dîn, ce n'est pas des bayans, ce n'est pas des règles de bienséance entre l'homme et la femme, non. Le dîn, c'est dans les moments de crise, comment je réagis en fonction des ordres d'Allah et en fonction des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on voit la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on analyse tout ce que les occidentaux disent à propos de notre religion concernant les relations entre hommes et femmes, nous voyons qu'il y a un problème, il y a une incohérence. Alors, soit, deux hypothèses, soit le problème vient de nous, nous ne vivons pas comme le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui fait que les gens se permettent de faire des remarques sur la civilisation musulmane sans retourner en arrière, sans analyser comment vivait le prophète il y a 15 siècles, mais en analysant comment vivent les musulmans à notre époque. Et dans ce cas, nous serions fautifs, et je pense que nous le sommes. Ou alors, autre hypothèse, c'est que c'est volontaire. Involontairement, il y a des gens qui ont l'intention de mettre de côté tous les textes coraniques et les textes prophétiques qui parlent d'amour, d'affection, de compassion, de muhabba, et de mettre en avant tous les versets en rapport avec la guerre, avec les situations d'affrontement, pour faire passer le message que c'est une religion qui est violente. Alors soit c'est nous qui sommes fautifs, soit il y a un, en guillemets, un complot. D'accord ? Mais je pense que c'est les deux. Mais la conclusion qu'on doit tirer, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une vérité à rétablir. Il y a une vérité à rétablir sur le plan local, sur le plan mondial, et cela passe par mon mode de vie à moi, musulman. Ça passe pas par un discours, ça passe pas par une conférence, non. Ça ne passe pas par une prise de conscience collective en même temps, non. Ça passe par une prise de conscience individuelle. Moi, musulman, chaque composant de la société, s'il se résigne à suivre scrupuleusement les ordres d'Allah et le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on choisit le sunnah. Sunnah là, les top, je le prends, sunnah là, c'est dur, on verra après. Non, le mode de vie intégral du prophète alayhi salatu wa sallam, assurément, nous serions des modèles pour l'humanité, comme le prophète l'était à son époque, comme les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in l'étaient à leur époque. Et il suffirait que les gens regardent notre mode de vie pour que les gens voient la lumière et que les gens obtiennent la guidée, obtiennent la hidayah. Ça, c'est un point. Deuxièmement, on a vu que donc, vivre cet amour, c'est un ordre coranique. Allah Ta'ala dit, « وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Donc, c'est pas une illusion, c'est pas être romantique que de se dire que dans la vie de couple chez les musulmans, il doit y avoir du romantisme. Oui, il doit y avoir. Parce que le Coran nous dit qu'il y a l'affection, la compassion et la rahma, la compassion entre l'homme et la femme. Deuxième point, ce sera le dernier point, nous ne devons pas oublier que certes, la vie de couple, c'est de la muhabba, c'est de l'amour entre l'homme et la femme, mais il faut savoir que quand on se marie, c'est qu'on va faire un chemin ensemble. Et un chemin qui, inshallah, sera le plus long possible. Et ce chemin que l'homme et la femme vont faire ensemble ne se limite pas aux années passées sur ce monde. Le chemin que l'homme et la femme vont faire ensemble, ce n'est pas jusqu'à la mort, comme dans les contes de fées, ils se marièrent et vécurent heureux, d'accord ? Ils disent pas la fin, ils disent pas jusqu'à quand. La limite dans la société occidentale, c'est vivre heureux jusqu'à la mort. Mais pour le mu'min, pour le muslim, le chemin que l'homme et la femme vont parcourir ensemble, c'est certes jusqu'à la mort avec un maximum de mawadda et de rahma, mais le reste du chemin, il est encore plus long. Le reste du chemin, c'est de la résurrection jusqu'à l'accès au paradis, jusqu'à, il n'y a pas de jusqu'à, ça concerne la vie éternelle. Ça concerne la vie éternelle. Donc le chemin jusqu'à la mort, on a dit, ce n'est qu'une étape. Le couple a besoin de se retrouver aussi ensemble dans l'au-delà de le Jannah. Vous savez, pour vivre correctement dans ce monde, petite parenthèse, hein, il y a certaines règles. Il faut une maison, il faut des revenus, il faut assumer les dépenses, etc., etc. Et avec tout ça, il y a des fois ça marche, mais il y a des fois ça marche pas. Mais pour être ensemble dans l'au-delà, c'est d'autres paramètres, c'est d'autres conditions. Et la condition, c'est respecter encore une fois scrupuleusement les ordres d'Allah, suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam et s'éloigner de tout ce qui est haram, de tout ce qui est illicite. Et vous savez, ce qui est malheureux, c'est quoi? Ce qui serait vraiment triste, c'est qu'un homme et une femme vivent 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie commune, heureux, comme au premier jour, dans ce monde. Et quand ils meurent, ils disent qu'eux, ils ont vécu heureux, vraiment, c'était comme dans un conte de fées. Mais le jour des comptes, dans l'au-delà, ils ne soient pas ensemble. Ça, ce serait une catastrophe. Qu'ils aient vécu ensemble, heureux dans ce dunya, mais que dans le paradis, ils ne se retrouvent pas ensemble. Normalement, un homme et une femme, ce lien du mariage, ils le retrouvent dans le Jannah. Sauf si les ordres d'Allah n'avaient pas été respectés dans ce monde. Et ça, c'est une tragédie. Et le verset qu'on aime citer, verset qui est symbolique, qu'on doit graver sur le mur des maisons des jeunes mariés, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Ce paradis qu'Allah Ta'ala a promis pour les personnes, et nous accompagnerons de ce paradis nos épouses, mères, frères, soeurs, enfants, mais une condition, la condition c'est quoi? Wa man salaha. Et wa man salaha, c'est qui ont été de bons croyants. Donc la condition, on va dire sine qua non, pour vivre ensemble, pour qu'un homme retrouve sa femme de le paradis, c'est wa man salaha, c'est de vivre avec la foi et les bonnes actions. Ça c'est indispensable. Autrement, même si on a été hyper heureux, hyper comblé dans ce monde, mais ne pas retrouver sa femme dans l'au-delà, c'est une catastrophe. Ou que la femme, le jour de Qiyama, elle se retrouve dans le paradis. Mais son mari, qui est en retard, il ne faisait pas la salah, il était un peu en arrière de la religion, malheureusement, ne peut pas la joindre dans le Jannah. La femme ne pourra pas intervenir pour que le mari le rejoigne dans le paradis. Parce que là-haut, ce qui compte, c'est quoi? C'est la foi et les bonnes actions. C'est pour ça que le prophète Allah Azza wa Jalla Quran man amila, terminera avec ce verset, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Première étape, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ce verset nous donne la solution du bonheur dans les deux mondes. Celui qui a la foi, qui a compté les bonnes actions, que ce soit un homme ou une femme, Allah Ta'ala garantit, nous lui ferons vivre une bonne vie. La première chose qu'Allah promet à un couple ou un homme ou une femme musulman ou musulmane, c'est qu'avec la foi et les bonnes actions, Allah garantit une vie de tranquillité de ce dunya. Et les mufassirin rahimahumullah disent que quand on parle de hayatan tayyiba, une vie, une bonne vie, une vie de bonheur, c'est pas la conception du bonheur que nous recherchons à travers les biens de ce monde. Non, c'est une tranquillité, une quiétude, une sakina qu'Allah Ta'ala met dans les cœurs. Même si on ne sera pas immensément riche, vous voyez bien que ce n'est pas toutes les personnes qui ont la foi, qui font de bonnes actions, qui finissent millionnaires ou milliardaires. Ça aurait été une solution à la crise. Mais cette quiétude qu'Allah met dans les cœurs, ça ne s'achète pas. On ne peut pas la monnayer. Il y a plein de gens, il y a des gens, subhanallah, qui ont tous les moyens, mais qui ne trouvent pas la tranquillité du cœur, qui ne dorment pas le soir. Ce hayatan tayyiba, il y a tellement de commentaires, on ne va pas les citer, c'est une sakina, une qana'a, autosuffisance de ce qu'Allah nous a donné. Il y a des gens qui ont eu quelques bienfaits de la part d'Allah, mais Allah inonde leur cœur d'une telle lumière qu'ils sont heureux, qu'ils sont toujours souriants. Ils peuvent habiter dans un F3 ou dans un F2, dans un studio avec peu de moyens, mais ils sont heureux. Pourquoi? On ne sait pas. Mais parce qu'Allah a mis une lumière dans leur cœur. Paradoxalement, des gens qui peuvent avoir tout, comme on a dit, ne trouvent pas cette lumière. Donc celui qui vit avec la foi et les bonnes actions, Allah Ta'ala, première étape, lui garantit hayatan tayyiba, et ensuite l'au-delà, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Donc comprenons que pour qu'un couple se retrouve dans l'au-delà, la condition c'est de vivre en fonction des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut absolument que lorsqu'un homme épouse une femme, il faut qu'il y ait un dialogue, qu'ils comprennent quel est l'objectif de leur vie. L'objectif, ce n'est pas qu'aujourd'hui on a un F2, dans 5 ans on économise, on va acheter une maison, dans 6 ans on va acheter une voiture, et ensuite on aura ça, etc. C'est pas ça les objectifs, les étapes de la vie. Le couple doit bien comprendre quelles sont les priorités et les phrases clés à intégrer, les versets clés du Coran à intégrer. Premièrement, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que l'homme et la femme comprennent bien que Allah m'a créé uniquement pour faire son adoration. Allah n'a pas besoin de moi. Allah Azza wa Jal attend de chaque musulman, de chaque musulmane, qu'il passe sa vie en suivant ses ordres. Deuxième phrase clé du Coran à retenir, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Que moi, musulman, ma vie, ma mort, toute mon existence appartient à Allah. Phrase clé à comprendre, que le couple doit lire, doit réaliser, doit étudier le tafsir de ces versets. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. De ce verset, Allah Ta'ala ordonne à chaque musulman de faire son adoration jusqu'à ce que, comme les commentateurs le disent, jusqu'à ce que Malik al-Maut reprenne l'âme. C'est pas que je suis musulman périodique, c'est pas que je suis musulman dans le mois de Ramadan, non, je suis musulman toute ma vie. Pourquoi? Parce que لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, j'appartiens à Allah Azza wa Jal. Retenir ce verset, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et enfin, c'est auprès de lui que vous retournerez. Allah nous donne la vie, Allah nous donne la mort, Allah nous ressuscite, et en finalité, nous retournerons auprès d'Allah. Vous savez, ces versets du Coran valent tous les discours, valent toutes les pratiques, valent, subhanallah, quand un mu'min réalise ces notions de base, que j'appartiens à Allah, j'ai été créé pour adorer Allah, mon adoration d'Allah c'est jusqu'à la mort, et quand je meurs, je retourne auprès d'Allah. Ce mu'min, ce couple qui a réalisé ça, c'est quelqu'un qui, incha'Allah, c'est un couple qui va vivre le droit chemin, et qui, incha'Allah, verront la récompense également de l'au-delà. Et pour intégrer, pour inculquer ces valeurs à la femme, ou que la femme inculque à son mari, hein, ça c'est une responsabilité. Hadith ibn Umar radiallahu anhu m'a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam dit: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit que chaque musulman est responsable, c'est comme un berger est responsable de son troupeau, et le mari est responsable de sa femme et de sa famille. C'est une responsabilité. Et la responsabilité, c'est quoi? C'est pas le loyer, c'est pas la subsistance, c'est pas les dépenses de la maison. La responsabilité de l'homme première, la plus importante, c'est quoi? C'est d'inculquer ces notions à son épouse, et d'inculquer ces notions, inshallah, par la suite, lorsqu'ils auront des enfants. Et la première responsabilité qu'Allah Ta'ala demande au mari, c'est quoi à l'homme? C'est de protéger sa famille. Protéger contre quoi? C'est pas contre la crise, c'est pas protéger contre les maladies, c'est pas protéger contre la... Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Protéger sa femme et ses enfants contre le feu de l'enfer. Et il y a des commentaires magnifiques. Ali ibn Abi Talib dit, on va conclure là-dessus, il dit que allimu anfusakum ahlikum al-khair. Il dit, c'est quoi protéger sa famille? C'est enseigner à sa femme et à ses enfants d'accomplir des bonnes actions. Az-Zamakhshari rahimahullah dit que enseigner à sa femme et ses enfants qu'il faut rester éloigné des péchés. Ça, c'est le discours qui doit animer la maison, le foyer d'un musulman. Si le mari le fait, alhamdulillah, il aura accompli son devoir de mari. Mais s'il ne le fait pas, qu'il sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah azza wa jal posera précisément cette question à chaque père de famille, à chaque mari le jour des comptes. يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا رَوَهُ التِّرْمِذِ وَفِي رِوَايَةٍ أَلَمْ أُزَوِّجُكَ. Allah Ta'ala demandera à un homme dans ce dunya, je t'ai accordé l'ouïe, je t'ai accordé la vue, je t'ai accordé les biens, je t'ai accordé des enfants, je t'ai accordé une épouse. C'est-à-dire que pour ce bienfait, il y a une responsabilité, et nous devons en répondre le jour de la résurrection auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans Sunan al-Nasa'i, le Prophète dit « Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli bayti. » Le jour des comptes, Allah Azza wa Jal demandera à chaque mari à propos du bienfait qu'Allah lui a accordé en lui donnant une femme et des enfants. Est-ce qu'il a respecté son engagement? Est-ce qu'il s'est acquitté de ses responsabilités, ou alors il a fui ses responsabilités? Là, nous parlons des responsabilités entre l'homme et la femme, mais ça va plus loin, ça va jusqu'à ce qu'on devienne père de famille. Vous savez, on ne va pas trop parler des faits de société, il y a parfois des pères de famille dans notre communauté, hein, ils savent, parenthèse, précisément, que leurs enfants, adolescents, 18-19 ans, sont dans l'adultère.
Ils savent.
Et quand on explique, quand on va voir les parents, on essaie de faire comprendre qu'il y a tel souci au lycée, qu'est-ce qui se passe, on parle même pas de l'université, enfin ça commence au collège, voilà, il y a des parents qui vous disent clairement que pour moi c'est pas grave. Même s'il va voir à droite, à gauche, il va faire quelques bêtises, du moment qu'il réussisse ses études, et qu'un jour il se case, un jour il se marie avec une femme vertueuse, il va faire sa vie, et les petites erreurs là, c'est des erreurs de parcours, Allah musta'an. Mais un papa qui se présente devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il pourra dire à Allah Azza wa Jal que ça c'était des erreurs de parcours? L'essentiel c'est que mon fils ait eu un travail et qu'il ait pu se marier par la suite. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit une parole qui est magnifique dans un livre qui s'appelle Ahkam al-Mawlid, dit que Inna Allah subhanahu yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidi. Très souvent nous parlons du droit des parents. Très souvent nous insistons sur le droit des parents. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que le jour des comptes, Allah ta'ala demandera en premier lieu au papa comment a-t-il géré sa responsabilité face à ses enfants. Ensuite, la question sera posée aux enfants, comment avez-vous agi envers vos parents? Très souvent, nous nous focalisons sur les droits des parents. Bien sûr, nous sommes tous d'accord, mais qu'on comprenne bien que chaque papa, chaque père de famille a également une responsabilité par rapport à sa femme et par rapport à ses enfants. Ibn Abbas, on va conclure là-dessus. Un homme qui se marie avec une femme pieuse, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jalla. Fassam a décrit ça comme étant parmi les kunuz ad-dunya, bima yaknizu ar-rajul, parmi les trésors qu'Allah Ta'ala accorde à un homme, c'est d'avoir une femme pieuse qui a intégré ces notions et qui sera éduquer sa famille et ses enfants en fonction des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, une femme qui a un mari pieux, lorsqu'un jeune homme pieux vient voir un père de famille qui pose une demande sur une fille, si nous voyons, ça veut dire que si vous voyez en lui les qualités religieuses requises et le bon comportement, acceptez sa demande. Parce que ça, c'est une opportunité, c'est également un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala demande au mari, wa ashiruhunna bil ma'ruf, d'agir correctement envers la femme. Mais le prophète alayhi salat wa salam nous dit également qu'une femme qui a le contentement de son mari et qui accomplit ses cinq piliers, lorsqu'elle meurt, elle accède directement au paradis. N'importe quelle femme qui respecte les ordres d'Allah et qui a le contentement de son mari, lorsqu'elle meurt, Allah Ta'ala fait de cette femme une habitante du paradis. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de mettre beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions dans ce couple qui va se former dans un instant. Et que, inshallah, ce couple mettra en pratique ses conseils. Ils auront la foi, bien sûr. Ils feront les bonnes actions. Ils resteront dans les limites de la sharia, respecteront les ordres d'Allah Azza wa Jal. Et ils auront hayatan tayyiba. Ils auront une vie paisible, apaisée. La lumière d'Allah dans leur cœur, dans ce dunya. Et ils auront leur récompense, le jour des comptes. Et qu'Allah Azza wa Jal leur accorde par la suite également, dhurriyatan tayyiba. Des enfants pieux qui seront la fraîcheur de leurs yeux. Et que toute personne de cette assemblée, qui n'est pas encore mariée, qu'Allah Ta'ala ouvre leur taqdir, leur accorde l'époux ou l'épouse vertueux et vertueuse, et que ceux qui sont mariés, qui attendent des enfants, qu'Allah Azza wa Jal envoie la baraka, leur accorde également des enfants. Ma tawfiq illa billah. I'm sorry, everything was in French. If you had time, I would make a translation for you in Urdu, but you don't have time. But before you go to my wife, you tell her, translate everything. Otherwise, you don't go with her any place. Inshallah, jazakallah. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.